anniversaire tristement célèbre à présent, il y a 10 ans, l'organisation terroriste islamiste Al-Qaïda commanditait les attentats du 7 janvier 2015 contre Charlie Hebdo. Demain, la France et le journal satirique rendront hommage aux 12 victimes. Ambre Guiton, vous êtes avec nous. Comment va se dérouler cette journée ?
Oui, 10 ans après, ni le pays ni le journal n'ont oublié cette journée. Cabu, Wolinski, Charb et bien d'autres, 12 victimes, dont 8 de la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, ont perdu la vie le 7 janvier 2015. Pour demain, des commémorations sont organisées. Le président Emmanuel Macron, plusieurs ministres et la maire de Paris, Anne Hidalgo, seront présents. Elles débuteront à 11h30 dans le 11e arrondissement de Paris, où Charlie Hebdo avait ses locaux au moment de l'attaque. Enfin, à 13h30, un hommage aux victimes du magasin Hypercacher, porte de Vincennes, conclura la cérémonie. Pour rappel, 4 personnes de confession juive y avaient été tuées le 9 janvier 2015.
Le journal Charlie Hebdo promet également de rendre hommage avec un numéro spécial. Alors à quoi faut-il s'attendre exactement ?
Oui Mathias, ce numéro spécial paraîtra dès demain et est en vente pendant 2 semaines. D'après l'AFP qui a pu le consulter, Charlie Hebdo se dit increvable. L'envie de rire ne disparaîtra jamais, assure la rédaction. Ce numéro double de 32 pages sera imprimé à 300 000 exemplaires au prix de 5 euros. À l'intérieur, une série de caricatures sur le thème hashtag rire de Dieu. Fin 2024, un concours international auprès de dessinateurs de presse invitait à dessiner leur colère contre l'emprise de toutes les religions sur leur liberté. 350 dessins avaient été reçus, dont près de 40 ont été retenus et publiés. La rédaction dévoile aussi les résultats d'une étude de l'Institut IFOP en juin 2024. Les Français étaient sondés sur la place de la liberté d'expression. Voici donc quelques chiffres. 76% des Français estiment que la liberté d'expression est un droit fondamental et que la liberté de caricature en fait partie. Des reportages et entretiens exclusifs seront aussi disponibles.
La liberté d'expression s'est inscrite dans l'identité des Français. Le 11 janvier 2015, 4 millions de personnes s'étaient réunies à travers la France avec de nombreux chefs d'État et de gouvernements étrangers dans le cortège parisien.
Oui, une liberté dont les Français sont donc attachés, comme vous l'avez dit, et ce malgré un contexte politique plutôt tendu ces dernières années. Certains déplorent justement la perte d'unité, comme Thierry Keub, connu pour la fameuse photo du baiser lors du rassemblement « Je suis Charlie ». À noter aussi que la menace persiste toujours, comme en témoigne Marika Brett, ancienne directrice des ressources humaines, chargée de transmettre la mémoire de Charb. Elle était présente sur le plateau de nos confrères BFM TV et se disait toujours ciblée par les menaces. Il y a quelques mois, elle a porté plainte contre des appels au viol sur les réseaux sociaux.
De nouveaux ennuis pour Nicolas Sarkozy, qui est attendu cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. L'ex-président encourt une peine de 10 ans, une amende de 375 000 euros et une interdiction de fonction publique de 5 ans minimum. Plus d'informations avec Maxime Cosmet.
Et oui Mathias, c'est un procès historique qui s'ouvre aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, jugé dans une affaire aux conséquences politiques et juridiques importantes, une question est au cœur de ce dossier. L'ancien chef de l'État a-t-il accepté des fonds de Muammar Kadhafi, l'ancien président libyen, l'ancien président de la République et 13 autres prévenus, dont Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth, 3 de ses anciens ministres qui se retrouvent sur le banc des accusés. Corruption, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. Voici les accusations lourdes auxquelles font face les prévenus. D'après les enquêteurs, un accord signé depuis 2006 avec l'ex-dictateur libyen Muammar Kadhafi pour injecter de l'argent caché dans la campagne de Nicolas Sarkozy qui l'a mené à la présidence.
Mais alors, pour nous rafraîchir un petit peu la mémoire, comment cette affaire a-t-elle éclaté exactement ?
Alors, l'affaire a commencé en 2012 quand Mediapart a publié un document sur un financement confidentiel de Kadhafi, une note que l'ex-dirigeant français a immédiatement contestée, rappelle un journaliste de France 24.
Cette accusation, il la conteste, elle est grotesque. On ne sait même pas quel est le montant de ce financement allégué. Selon les personnes qui sont interrogées, on a 5, 6, 50 millions, 400 millions. On ne sait même pas quelle est la devise.
Depuis, plusieurs témoignages, notamment celui de l'homme d'affaires Ziad Kakadine, actuellement au Liban, affirmant avoir transporté des fonds pour la campagne, ont renforcé les accusations.
Le procès va-t-il durer longtemps, Maxime ?
Alors, l'affaire judiciaire qui devrait durer 3 mois s'annonce particulièrement intense. À partir d'aujourd'hui, les audiences auront lieu les lundis, mercredi et jeudi après-midi jusqu'au 10 avril. Cette audience sera tout de même marquée par des absences. Abdallah Senoussi, Bachir Saleh et Choukri Ghanem, des témoins clés de l'affaire, sont aujourd'hui décédés ou emprisonnés. Cependant, leur rôle dans cette affaire continuera de peser sur les débats à venir. Un procès pour corruption au sommet de l'État soulève des questions fondamentales. Jusqu'où les dirigeants politiques sont-ils prêts à aller pour accéder au pouvoir ?
Effectivement, on est encore en droit de se poser la question. Les tensions entre la France et l'Azerbaïdjan risquent de se raviver. Un Français accusé d'espionnage est actuellement jugé ce lundi par la justice de Bakou. Les explications avec Lilian Balu.
Il s'appelle Martin Riyan, un homme d'affaires français, est actuellement détenu en Azerbaïdjan. Il a été arrêté en décembre 2023 et depuis 12 heures ce lundi, il comparaît devant la justice du pays. Il est accusé d'espionnage pour l'État français à l'encontre de Bakou. Il encourt jusqu'à 15 ans de prison. Les autorités françaises ont rejeté catégoriquement ces allégations d'espionnage. À noter que Martin Riyan, qui aurait été recruté par la DGSE, n'est pas le seul sur le banc des accusés. Azad Mamedli, un citoyen azerbaïdjanais, est également mis en cause dans cette affaire.
Mais alors, est-ce que les tensions entre Paris et Bakou ne risquent tel pas de s'empirer un peu?
Eh bien, c'est possible. Souvenez-vous, en novembre dernier, le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, avait ouvertement attaqué l'État français, accusant le gouvernement d'Emmanuel Macron et sa gestion de crise en Nouvelle-Calédonie, dénombrant une douzaine de morts et plus de 160 blessés. De son côté, Paris avait réagi en attaquant l'Azerbaïdjan sur l'organisation de la COP29. Le président de la République ne s'était même pas rendu en Asie, tandis que l'ancienne ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher avait estimé que Bakou se servait de cette COP29 pour instrumentaliser la crise climatique, dénonçant ainsi que l'Azerbaïdjan est favorable à l'utilisation d'énergies fossiles.
On reste à l'international, direction l'Amérique. Aujourd'hui à 13h, le Congrès a certifié la victoire de Donald Trump. 4 ans après la prise du Capitole, retour sur les faits avec Lily Abbaye.
6 janvier 2021, des centaines de personnes pénètrent le Capitole à Washington. Objectif, empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. Provoqué notamment par Donald Trump, cet assaut est vu comme une tentative de coup d'État. L'opération échoue, Biden est victorieux, 306 voix contre 232 pour le républicain. Au total, 5 personnes sont décédées, dont un policier américain. 1250 partisans de Donald Trump sont reconnus coupables et 650 sont condamnés à la prison. 4 ans plus tard, Donald Trump est de retour. Cette année, c'est sa victoire qui est certifiée. Le candidat républicain a déclaré qu'il graciera les émeutiers dès le premier jour de son second mandat, qui commencera le 20 janvier. Ironie protocolaire, Kamala Harris, rivale vaincue, s'est chargée ce midi de la certification de son adversaire. 312 grands électeurs pour Donald Trump contre 226 pour elle-même. Voici les résultats qu'elle a officialisés.
Et point culture pour finir, cette nuit a eu lieu la 82e cérémonie des Golden Globes qui récompense les meilleurs films et séries de l'année 2024. Et un film français était en compétition, Emilia Pérez. Eh bien Evan, a-t-il fait sensation ?
Et oui, Emilia Pérez a été l'attraction de la soirée avec 10 nominations. Le réalisateur du film Jacques Audiard s'attendait à quelques statuettes. Eh bien, il ne s'était pas trompé. Ce n'est pas une, ni deux ou trois, mais bien 4 statuettes qui ont été attribuées au film. La première a été obtenue par Zoé Saldana, élue meilleure actrice dans un second rôle. Très émue, elle n'a pas hésité à remercier Jacques Audiard.
Jacques, je vous admire parce que vous créez des personnages tellement complexes et vous êtes tellement chic, tellement français. Je vous adore vraiment du fond du cœur, Jacques.
Le réalisateur a lui-même eu l'occasion de monter sur les marches un peu plus tard dans la cérémonie car il a été récompensé pour les prix du meilleur film en langue étrangère et celui de la comédie, de la meilleure comédie ou comédie musicale. Et ce n'est pas fini, le film a gagné le prix de la meilleure chanson originale pour El Mal, écrite par Camille et Clément Ducol.
Et ce n'était pas le seul événement de la soirée, car d'autres films et séries sont partis avec de nombreuses récompenses.
Côté série, c'est Shogun qui s'en sort le mieux avec 4 statuettes, un véritable triomphe. Il y a eu également une grosse surprise, c'est Flo, film d'animation muet qui met en scène un chat dans un monde submergé par les eaux. Il a piqué la statuette au favori de la catégorie, à savoir le robot sauvage. Autre gros succès, celui du film The Brutalist qui sort en France le 12 février. Il repart avec 3 statuettes, dont celle du meilleur réalisateur pour Brady Cornette. Et une récompense a fait également beaucoup de bruit, celle de la célèbre actrice Demi Moore pour le film The Substance. Elle a gagné le prix de la meilleure actrice dans une comédie ou comédie musicale. C'est le premier prix de sa carrière.
Il y a quelques années, je me suis dit que peut-être que c'était fini pour moi, peut-être que j'avais terminé ma carrière et fait tout ce que j'avais à faire. Et alors que j'étais au plus bas, j'ai reçu ce scénario absolument audacieux, courageux, qui sortait des sentiers battus, qui atterrit sur mon bureau et qui s'intitulait « The Substance ».
Et malheureusement, comme dans toute grande cérémonie, il y a aussi des grands perdants.
Et oui, c'est la Palme d'Or de Cannes Anora, réalisée par Sean Baker, qui est reparti bredouille avec pourtant 5 nominations. Mais le film va peut-être se rattraper car le 3 mars aura lieu la cérémonie des Oscars. Et on espère aussi pour Jacques Audiard et son film Emilia Pérez un tel succès.
C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dès demain pour un nouveau point sur l'actualité. D'ici là, portez-vous bien et passez une très bonne journée sur Fréquence ADN.